Un masque et des accessoires textiles écologiques et chics pour le bien de tous. Quelle belle idée! Spécialisé dans la confection de masques lavables de catégorie 1 et autres accessoires textiles, Atelier 29 ouvre le 8 juin 10 rue du Canton à Cognac. À la fois ergonomique et esthétique, nos masques allient artisanat et sécurité. 100% coton, 100% charentais, personnalisable à souhait. Pour les professionnels et les particuliers, trois modèles en 22 couleurs vous sont proposés. Atelier 29, notre savoir-faire, votre style. Info et commande dès maintenant sur atelier29.fr.
Les nuits de France Culture. Philippe Garbi, Alban Penaranda, Mathilde Wagman, Hassan M. Béchour, Virginie Mourtet, nous sommes ensemble jusqu'à 7h du matin.
La nuit de l'Oulipo. C'était le 24 novembre 1960 dans les sous-sols d'un restaurant dénommé Le Vrai Gascon au 82 de la rue du Bac à Paris. Pour la première fois se réunissaient les membres d'un nouveau séminaire de littérature expérimentale, le Célitex, fondé par Raymond Queneau et François Le Lyonnais. Quelques semaines plus tard, sur la proposition de l'un des membres du séminaire, Albert-Marie Schmitt, le groupe prit le beau nom d'ouvroir de littérature potentielle, bien vite désigné par l'acronyme sous lequel on le connaît encore aujourd'hui, l'Oulipo. L'an dernier, au moment même où l'on célébrait les 60 ans de cette toute première réunion, le prix Goncourt était décerné à un membre de l'ouvroir et même à son président, Hervé Le Tellier, pour son roman « L'Anomalie ». Ainsi reparla-t-on du groupe qui compte aujourd'hui 41 membres, dont 20 sont excusés pour cause de décès, et qui se donne toujours pour tâche l'invention de contraintes littéraires. Alors que l'on souffle cette année par ailleurs les 60 bougies de la toute première œuvre de littérature potentielle concertée, j'ai nommé les 100 000 milliards de poèmes de Raymond Queneau, et parce que bien des oulipiens ont fait merveille à la radio, et aussi parce qu'un soupçon de légèreté ne fera sans doute aucun mal par les temps qui courent, nous avons eu envie de vous proposer deux nuits d'archives radiophoniques hautement oulipotables. Au programme de la première de ces deux nuits donc ce soir, on plongera notamment dans les origines de l'Oulipo, l'histoire de sa création. Ses deux fondateurs seront à l'honneur, à commencer par François Le Lyonnais. On entendra pour ouvrir la nuit le second volet d'une série de deux documentaires que Christine Goémé lui avait consacré en 1993 pour l'émission Profil perdu. Le premier volet a été diffusé dans la nuit d'hier et vous pouvez le retrouver sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France. Il y était question du parcours de Le Lyonnais avant la fondation de l'Oulipo et ce second volet est consacré essentiellement à l'histoire de l'ouvroir. Et puis on retrouvera François Le Lyonnais dans la deuxième partie de la nuit tout à l'heure. En 1976, il était l'invité de Roger Pilaudin. Il dialoguait avec l'écrivain Pascal Lainé sur le thème Oulipo et Ouixpo. Un peu plus tard, dans la première partie de cette nuit, c'est l'autre papa de l'Oulipo, Raymond Queneau, que l'on entendra dans trois volets de la série d'entretiens fameux qu'il avait accordé à Georges Charbonnier en 1962 et dans lesquels il évoquait les 100 000 milliards de poèmes et présentait lui aussi, pour l'une des premières fois publiquement d'ailleurs, l'Oulipo tout jeune à l'époque. Si, comme le précisait François Le Lyonnais dans le dialogue que l'on va entendre, il n'est pas nécessaire d'être écrivain pour être oulipien, nombre des membres de l'Oulipo sont des écrivains. On en entendra deux cette nuit parler de deux œuvres très oulipiennes. Georges Perec d'abord, qui en 1978 était venu présenter son roman « La vie mode d'emploi ». Et puis dans la seconde partie de la nuit, Italo Calvino en 1981, il était quant à lui venu parler de « Si par une nuit d'hiver, un voyageur ». Puis c'est Marcel Benabou et Jacques Roubaud, que l'on entendra tout à l'heure dans l'émission « De bouche à oreille » de René Elkaïm-Bollinger. En 1998, ils évoquaient les liens nombreux entre la bonne chère et l'Oulipo. Et enfin, on entendra un exemple de ce que la contrainte littéraire peut faire à la poésie contemporaine avec Jacques Jouet, qui en 1996, pour l'émission « Poésie sur parole », avait lu quelques-uns de ses poèmes de métro. Mais pour commencer et pour nous accompagner, tout au long de cette nuit, j'ai le très grand plaisir de recevoir la recrue la plus récente de l'ouvroir en la personne de Clémentine Mélois. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Et merci beaucoup d'être avec nous cette nuit. Vous avez été cooptée, comme on dit, par les membres de l'Oulipo en 2017. Vous êtes plasticienne et écrivain. Pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout votre travail, on peut dire que nombre de vos ouvrages ont pour point commun de provoquer le rire de leur lecteur, un vrai rire, un rire franc, ce qui est assez rare finalement. C'est le cas ô combien de la parodie de roman photo qui est parue aux éditions du Seuil il y a quelques semaines, qui s'intitule « Les six fonctions du langage ». C'était le cas aussi de votre tout premier livre pour adultes, je crois, paru il y a quelques années, sans titre, sans comme le chiffre 100, un recueil de détournements de couvertures de livres de la littérature mondiale, pour le dire vite. Vous êtes aussi auteur de livres pour enfants et paru récemment à l'École des loisirs, un livre au titre lui-même, en lui-même déjà enchanteur, Radio Banane. Il est illustré par Rudy Spiesser, avec qui vous avez souvent travaillé. On va parler de ces ouvrages, de votre travail en général, mais pour commencer, sujet de la nuit oblige, j'aimerais vous demander tout simplement comment est-ce que ça s'est passé pour vous, cette cooptation à l'Oulipo, comment est-ce que vous avez été amenée à rejoindre le groupe?
Dans un premier temps, j'ai été invitée d'honneur à l'Oulipo. Il arrive qu'on reçoive des invités à l'Oulipo lors de nos réunions mensuelles. Alors il faut savoir qu'il y a une réunion tous les mois depuis la création du groupe, avec un ordre du jour qui est toujours le même depuis 1960. Et parfois, il y a un invité d'honneur dont le travail a un lien ou a un écho avec l'Oulipo, ou disons dans son travail, il s'intéresse à l'Oulipo ou l'Oulipo s'intéresse à lui. Donc on est invité, j'ai été invitée au moment où je venais de terminer un livre qui s'appelle « Sinon j'oublie », qui est un recueil de portraits, de voix, de personnages, inspiré de ma collection de listes de courses. Donc, j'ai une collection de listes que je récupère dans la rue depuis une vingtaine d'années.
Que vous ramassez par terre, que vous trouvez comme ça au hasard. Hein.
Oui, que je trouve au hasard des listes de personnes inconnues qui sont à chaque fois pour moi le déclencheur d'une histoire. Et donc je venais d'écrire ce livre, et ce livre-là, je l'ai écrit en le structurant, en me servant comme échafaudage, disons, d'une contrainte d'écriture utilisée par Georges Perec pour écrire La vie mode d'emploi. C'est le principe des contraintes oulipiennes, c'est que, en fait, l'Oulipo inventorie des contraintes, les invente, et elles peuvent servir à n'importe qui, n'importe quel écrivain, pour faire ce qu'il veut, ce qui lui plaira. Et n'étant pas à l'Oulipo, je me sentais tout à fait autorisée à utiliser une contrainte qui me convenait et qui me servait. Et l'Oulipo m'a invitée à venir présenter ce travail-là, et ça a été une vraie rencontre à ce moment-là pour moi, parce que quand je parlais de cette collection de listes de courses à mes amis, quand je parlais de cette contrainte d'écriture qui est un bicarré latin orthogonal, on appelle ça le parcours du cavalier, ça peut paraître un petit peu compliqué. Et tout le monde me regardait en disant « Ah oui, c'est très bien Clémentine, oui tu collectionnes les listes, oui, d'accord, très très bien. » Et là, pour la première fois, j'ai senti un regard de compréhension. Et ça a été un moment très, très émouvant pour moi, très important. Et puis, c'est tout, j'en étais restée là. C'était une belle rencontre. Et quelques mois plus tard, j'ai reçu un mail de Paul Fournel, le président de l'Oulipo de l'époque, qui me demandait si je voudrais rejoindre le groupe. Et ça a été une très grande surprise, parce qu'il faut aussi savoir que pour rejoindre l'Oulipo, il faut être coopté à l'unanimité et il faut ne pas avoir demandé à rentrer à l'Oulipo. Si on demande à rentrer dans le groupe...
On est sûr qu'on n'y rentrera pas.
Absolument. Ouais. Donc c'est forcément une surprise.
C'est le contraire de l'Académie française, on peut dire.
Ah, oui, c'est ça. C'est le contraire exact.
Dans un livre qui s'appelle « Moment oulipien », qui est paru en 2004 au Castor Astral, plusieurs membres de l'Oulipo racontent des souvenirs, des incidents, des anecdotes en lien avec la vie du groupe et des moments donc oulipiens, jugés comme tels par eux. Certains, notamment Hervé Letellier, je crois, racontaient dans ce livre leur souvenir de la toute première réunion de l'Oulipo à laquelle ils ont participé en tant que membres. Est-ce que vous vous souvenez, non pas donc de la réunion pour laquelle vous étiez invité d'honneur, mais... la première fois où, ça y est, vous étiez une oulipienne et vous participiez.
Oui, je me souviens très bien. Je me souviens, pour revenir à cette idée, ce mail de Paul Fournel, j'ai eu très peur au début. Parce que je me suis dit que ça allait impliquer des obligations. Et j'ai horreur des obligations. j'aime les contraintes quand je me les impose, mais sinon, je me suis dit, je vais être obligée de faire des trucs, je vais être obligée d'écrire sous des contraintes. Et en fait, pas du tout. Ça n'implique aucune obligation. Et cette première réunion, je m'en souviens très bien parce qu'elle était chez Marcel Benabou. Et ce jour-là, Marcel a présenté, au cours de cette réunion ordinaire, un projet, une demande de la part de la Coerie Vian. Donc les héritiers de Boris Vian avaient dans une pochette depuis des années 4 chapitres inédits écrits par Boris Vian. Ça allait être l'anniversaire de la mort de Boris Vian et il proposait au groupe de terminer d'écrire ce livre. Je me suis dit, c'est dingue, C'est dingue ce groupe, ce qu'on nous propose. J'étais très, très, évidemment, adolescente. J'ai découvert la poésie à travers les Cantilènes d'Angelais de Boris Vian. C'était un auteur très important pour moi. Et bon, c'était une réunion dont je me serais souvenue, même si ça avait été une réunion qui s'était tenue plus tard, disons.
Et d'ailleurs, vous avez été au bout de ce projet. Hein. Le livre est paru tout récemment.
Il est paru en janvier 2020. Alors, c'est une période... Bon, les librairies ont été fermées assez peu de temps après, mais le livre existe et ça a été un très grand plaisir. Et surtout, c'était quelque chose d'inédit pour moi, mais je pense aussi pour les autres membres de cette sous-commission Vian, c'était d'écrire à plusieurs. Et on a vraiment écrit à plusieurs mains avec le texte qui s'écrivait grâce aux outils numériques. Maintenant, on peut avoir un document unique et on écrivait tous ensemble en discutant, en disant « Ah non, mais on va mettre ce mot-là plutôt. Tiens, il pourrait se passer telle chose. » On écrivait des choses pour se faire rire mutuellement. Et ça, c'était mon premier projet collectif oulipien, en fait.
Oui, et le collectif, c'est l'une des dimensions essentielles du groupe, l'idée de travailler en commun.
De travailler en commun, et pour moi, mais je pense que c'est vraiment l'esprit des fondateurs du groupe, il y a le collectif entre nous, entre oulipiens, mais c'est surtout que ces contraintes-là et cette potentialité de la littérature, on ne la pense pas pour nous, on la pense pour tout le monde. Et c'est comme ça aussi que je suis venue à utiliser des contraintes oulipiennes, c'est que tout le monde peut les utiliser. C'est une sorte de, j'emploie le terme copyleft, c'est ce qui est employé dans le milieu du livre d'artiste et des jeux vidéo, c'est qu'il y a un créateur et qu'ensuite il donne ça, il laisse ça et on s'en sert. Et par exemple, si vous allez sur le site internet de l'Oulipo, ils sont référencés une centaine de contraintes. Et alors, vous êtes un jeune écrivain, vous avez envie d'écrire quelque chose, vous vous dites, mais comment, par quel bout le prendre? Et vous pouvez aller piocher là-dedans.
Alors justement, on va entendre un certain nombre de contraintes citées hein, au cours de la nuit par François Le Lyonnais, par Raymond Queneau et par d'autres. Je rappelle que, bien sûr, l'existence de contraintes en littérature existe depuis... très longtemps, hein. C'est pas une invention de l'Oulipo. On peut citer le sonnet, l'alexandrin, l'anagramme, la tragédie en cinq actes, la rime, absolument. Mais l'Oulipo se donne donc pour tâche d'en inventer de nouvelles. Parmi ces contraintes mises au point par l'ouvroir, je cite de manière au hasard hein, et de manière évidemment partielle, puisqu'il y en a des centaines, la contrainte qui s'appelle S+7, qui consiste à remplacer chaque substantif d'un texte par le septième lui faisant suite dans le dictionnaire, l'alexandrin à longueur variable ou alva qui permet de faire varier la longueur d'un alexandrin en n'en prononçant pas les e muets, la poésie antonymique dans laquelle on remplace chaque nom d'un poème par son contraire. Je m'arrête là, on pourrait en citer plein d'autres. Et quels sont vos favorites parmi ces contraintes? Vous citiez tout à l'heure cette contrainte utilisée pour votre ouvrage « Sinon j'oublie ». Est-ce que ça fait partie de vos favorites? Est-ce que vous avez comme ça des chouchous?
Alors moi, oui, on a tous des façons de travailler très différentes. On n'a pas le même âge, on n'a pas la même référence au sein du groupe. Certains sont poètes, d'autres sont prosateurs, ils sont romanciers, écrivent du théâtre. Mais on a tous ce goût en commun pour l'organisation de ce qu'on écrit, je le formulerai comme ça. Par exemple, les anagrammes ne m'amusent pas du tout. Les lipogrammes, la fameuse disparition de Georges Perec, ne m'intéressent pas tellement non plus. Moi, ce que j'aime bien, c'est structurer, c'est-à-dire établir un schéma qui va... organiser l'écriture du livre. Je commence par avoir une idée, j'ai une idée de livre. Ensuite, je pense, admettons, aux personnages, je pense à la forme de narration et tout ça. Et ensuite, comment l'organiser? Et ça peut paraître, pour quelqu'un qui serait peu au fait des pratiques de l'Oulipo, ça pourrait passer pour une manie ou pour une façon de jongler un peu dérisoire. Alors, je suis un peu prosélyte et je ne veux pas faire VRP de l'Oulipo à votre antenne.
Mais pourquoi pas?
Il y a quelque chose d'incroyablement libérateur et qui est vraiment, vraiment formidable et nécessaire pour moi dans la contrainte de structure. C'est comme un échafaudage que je bâtirais, qui me servirait à construire le texte. Et ensuite, je le démonte, je le range et le lecteur n'est pas du tout au courant. Il n'est pas censé savoir comment j'ai fait mon livre. Pour mon dernier livre, mon dernier essai qui s'appelle « Dehors la tempête », je me suis amusée à utiliser une contrainte qui m'amusait, mais que je trouvais intéressante, qui est une contrainte qui s'appelle, que j'ai appelée la contrainte du point jacquard. Parce que j'ai remarqué, j'ai trouvé dans un livre de tricot, j'ai trouvé que les motifs, que la structure pour tricoter ressemblait vraiment aux motifs des contraintes structurelles mathématiques. Et je me suis dit, tiens, ce serait amusant de tricoter un livre. Et en suivant ça, parce que ça m'amusait, ça m'a conduit dans ce texte-là à faire des choses vers lesquelles je ne serais pas allée sans cette contrainte-là. Ça crée de l'inattendu et ça crée des choses intéressantes.
Non, mais c'est très intéressant. Par exemple, parce que, oui, vous le dites vous-même, vous ne mentionnez pas la contrainte. Quand on lit Dehors la tempête, il n'est écrit nulle part que ce livre a été composé de la façon que vous venez de décrire. Je ne me souviens plus si c'est dans une émission de la nuit ou bien qu'on va entendre ou bien dans un ouvrage, mais je me souviens d'avoir entendu quelqu'un qui disait que, par rapport à cette question de révéler ou non la contrainte, il y avait un peu deux écoles, il me semble, et vous allez me corriger si je me trompe, qu'il y avait l'école Perret qui disait qu'il fallait expliquer, dire la contrainte selon laquelle on avait travaillé, et puis l'école Queneau qui pensait plutôt qu'un peu de mystère ne nuit pas, que, oui, que voilà, de toute façon la contrainte se sent, mais qu'on n'a pas besoin de la formuler. Mmh. Vous, pourquoi vous choisissez de ne pas la dire? Et concrètement, dans Dehors la tempête, comment ça s'est passé? Dehors la tempête est un livre composé d'une succession de chapitres qui raconte, pour le dire très vite, votre rapport passionné, passionnel au livre et à la lecture.
Oui, le rapport universel à la lecture. Mmh. Disons que pour trouver une analogie, je pense que dire ou non la contrainte, c'est un peu comme dans certains restaurants où on voit la cuisine. Vous voyez? On voit les, je sais pas, les restaurants japonais, on voit là, les sushis en train de se
les
faire.
Les cuisiniers au travail, cuisiniers. Ouais.
C'est très intéressant, ça fait partie du spectacle. Mais ça, la question de dire ou non la contrainte, c'est un débat qu'on a toujours et qui avait lieu déjà avant ma naissance. Moi, j'en parle très volontiers. D'ailleurs, je suis toujours très... C'est une anecdote pour moi. Donc, je le raconte, ça m'amuse. Et puis, je trouve ça intéressant aussi. J'aime bien l'idée que, par exemple, dans mon livre sur les listes de courses, il y ait 100 listes de courses, 99 plus 1, et qu'il y a 10 catégories de population, 10 sujets de préoccupation. Que j'ai une grande satisfaction de cohérence et d'organisation. Ça va avec ma psychorigidité et mon perfectionnisme. Tout est très bien rangé, tout est très bien. Avec une apparence comme ça de fouillis, mais c'est un fouillis structuré. Donc ça me plaît. Mais j'ai l'impression que de le dire à la fin du livre, c'est une façon de dire « Regardez-moi jongler, regardez comme c'est malin. » Et je veux que la contrainte ne nuise pas au plaisir du lecteur et que ce soit un vrai moment de lecture et qu'on ne se dise pas « Tiens, quel est le truc ?» Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? C'est quoi la contrainte? Je veux qu'on oublie complètement ça. Ça m'a servi à écrire, c'était une structure, c'était un échafaudage. Mais ensuite, le lecteur n'a pas à subir le poids de ça.
Dans ce livre, Dehors la tempête, je le disais, hein, vous parlez au travers de différents chapitres de souvenirs, d'anecdotes vécues qui renvoient à votre plaisir des livres et de la lecture. Et en lisant cet ouvrage, j'ai pensé que peut-être finalement... Le plus petit dénominateur commun entre vous tous, Oulipiens, entre tous les membres, c'était peut-être ça finalement, l'amour du livre et de la lecture. Parce que, bien sûr, les membres de l'Oulipo ont des parcours très variés. Certains sont écrivains, mais pas tous. On n'est pas obligé d'être écrivain pour être Oulipien. C'est ce que dit François Le Lyonnais dans l'une des émissions qu'on va entendre. Est-ce que c'est ça le ferment commun? Si on est Oulipien, c'est forcément qu'on a été un lecteur passionné.
Oh, bah, si on est écrivain, bien sûr, je pense qu'on est au départ un lecteur passionné. La thèse d'Hervé Le Tellier, qui est devenue l'esthétique de l'Oulipo, ce qu'il développe comme idée dans ce livre-là, c'est que le point commun entre tous les Oulipiens et le travail oulipien, c'est une esthétique de la complicité. Mm. Je suis très d'accord avec ça. Moi, je me sens très... comment le formuler C'est aussi mon truc, disons. C'est aussi mon truc, cette esthétique de la complicité. C'est que c'est des clins d'œil. C'est des clins d'œil au lecteur. Et cette idée de jeu et de jeu sérieux. Et tout à l'heure, vous disiez que mon travail fait sourire. Et j'en suis très heureuse. Et je me dis qu'on peut sourire en se posant des questions. Et c'est toujours les deux, comme ça. Et en fait, c'est le cas aussi de Georges Perec, dont on se souvient de choses très drôles dans son travail. Et puis des choses d'une noirceur épouvantable. Mais il y a toujours cette main tendue vers le lecteur. On écrit évidemment pour soi-même quand on est écrivain, mais on écrit, il y a une destination. Et cette destination-là, elle est importante chez les Oulipiens, je pense.
Et le sourire est une forme de complicité, finalement.
Le sourire est une forme de complicité parce qu'on rit de ce qu'on reconnaît.
Oui, absolument. Mmh. Vous citez beaucoup Georges Perec dans cet ouvrage de Voir la tempête. Vous en parliez à l'instant. On sent que c'est un auteur important pour vous. Ça se, voilà, ça se perçoit dans vos ouvrages. Est-ce que vous diriez que parmi tous les membres de l'Oulipo, c'est votre héros, votre favori, mais je ne sais pas si c'est juste de le formuler
là.
Comme ça.
Je vais faire des jaloux et des jalouses. Non. Oui, non, c'est vrai que j'en parle beaucoup, j'en parle probablement trop, mais on ne vient pas de nulle part. Et c'est vrai que Georges Perec fait partie, mais il y a d'autres écrivains qui ont compté pour moi. Georges Perec compte pour moi encore aujourd'hui, notamment par rapport à ces thèmes de prédilection. Mm. Alors, par exemple, la disparition ne m'intéresse pas trop. Je m'en fiche un peu.
C'est plutôt l'infraordinaire qu'on retrouve dans...
Alors, je suis née 2 ans avant la mort de Georges Perec, et donc, c'est peut-être bizarre, mais moi, ce qui m'a le plus touchée chez lui, c'est les textes publiés à titre posthume dans la librairie, dans la collection de la librairie du 21e siècle de Maurice Hollander.
Ouais,
ça a été déterminant pour moi, ça. Mm. L'infraordinaire, espèce d'espace, pensée classée. Et c'est des... Je me suis tellement reconnue là-dedans de s'intéresser à des petites choses dérisoires. L'infraordinaire, des choses, personne ne regarde ça, personne ne regarde les listes abandonnées sur le trottoir, comment on classe nos petites cuillères, tiens, il y a un motif sur votre chemise, d'où est-ce qu'il vient, ouais, et ça me passionne, et c'est tellement un générateur d'histoire, j'ai l'impression de faire partie de cette famille de pensée, ouais.
Alors justement, c'est Georges Perec que je voudrais vous faire écouter maintenant, Clémentine Mélois. Il avait été le 14 novembre 1981, c'était pas si longtemps après votre naissance, invité à participer à l'émission Mi Fugue Mi Raisin de Bertrand Jérôme et Françoise Trossard sur France Culture. C'est l'une des émissions ancêtres des Papous dans la tête, émission à laquelle vous avez vous-même participé plus récemment. Ce jour-là, c'est un autre membre de l'Oulipo, Jacques Bince, qui lui avait proposé de dresser la liste des 50 choses qu'il ne faudrait tout de même pas oublier de faire avant de mourir. Et je signale que l'on pourra entendre l'intégralité de cette séquence en ouverture de la seconde nuit que nous consacrons à l'Oulipo. Samedi prochain, voici donc l'une des choses que Perec énumérait dans cette liste de choses à ne pas oublier de faire avant de mourir.
Alors ensuite, il y a des choses qui sont liées à mon travail d'écrivain. Alors, il y en a beaucoup, j'en ai choisi un certain nombre, enfin, ça c'est des choses qui sont, bon, c'est plus que des choses que j'aimerais faire comme ça dans le vague, ça correspond disons à des projets qui sont encore vagues, qui sont pas encore, je suis pas encore passé au stade de réalisation de ces projets, mais enfin c'est des choses que je vise, enfin d'une manière un tout petit peu plus précise. Alors il y en a qui sont tout à fait possibles, c'est-à-dire qui ne dépendent que de moi, par exemple écrire pour de tout petits enfants. Quand je dis écrire pour de tout petits enfants, je veux dire des enfants qui ne savent pas lire encore, c'est-à-dire qui ont entre 6 mois et 2 ans, je ne sais pas à quel âge on apprend à lire à 4 ans.
Oui.
Entre 6 mois
plutôt,
et 4 ans.
Plutôt 5-6.
5-6 ans, oui. Donc des enfants à qui les parents lisent des histoires le soir, mais qui seraient des histoires pour les enfants, pas pour les parents. Je veux dire, ça, il y a pour moi une différence. Donc pour des tout petits enfants. Ce qui doit être très très difficile. Et aussi écrire des histoires alors pour des petits-enfants qui commencent à apprendre à lire.
Vous connaissez cet entretien?
Oui, j'aime beaucoup. Je ne me souvenais pas de ce passage-là en particulier.
Alors vous me voyez venir, je vous fais écouter ce passage parce que vous écrivez vous aussi depuis un certain nombre d'années maintenant des histoires pour les enfants, tout petits et un peu plus grands, ceux qui savent déjà lire ou ceux qui ne le savent pas encore. À l'école des loisirs, il y a la série des chères Bertie, cette petite souris aventurière, les 2 volumes des aventures des formidables chiens pirates, un album pour petits intitulé Un loup sort dans la nuit, et au seuil l'an dernier, Tout ce que je sais sur les chats et Tout ce que je sais sur les chiens, autant d'albums dont vous signez les histoires et Rudy Spiesser les illustrations. Est-ce que vous êtes d'accord avec Georges Perec? Est-ce que c'est très très difficile d'écrire pour les enfants et plus singulièrement peut-être encore ceux qui ne savent pas encore lire?
Très difficile, je ne sais pas. Je pense que c'est un autre plaisir que d'écrire pour les adultes. C'est quelque chose de différent. Pour moi, raconter des histoires aux enfants, c'est un pur plaisir de récit. Et alors, je tiens juste à préciser que Tous mes livres pour enfants, je les fais avec Rudy Spiesser, à quatre mains. On imagine les histoires ensemble. Alors, lui est dessinateur et j'écris, mais en réalité, il intervient dans l'écriture.
Ah oui, d'accord. Alors, j'ai dit une bêtise. J'ai présenté les choses de manière traditionnelle. On dit souvent l'auteur, l'illustrateur, mais c'est plus compliqué que ça.
Là, on fait vraiment... Et je ne fais des livres pour enfants qu'avec lui. Et lui aussi. C'est vraiment, on a décidé d'explorer, enfin c'est un peu présomptueux de dire ça, mais d'imaginer toutes les formes possibles, et le style d'écriture et la forme du dessin s'adaptent à chaque idée. Donc il y a un roman de science-fiction, il y a un roman d'aventure, de fantastique, il y a un roman de piraterie, et on a envie d'en faire plein comme ça, et c'est vraiment un pur plaisir. Et pour trouver, alors j'aime bien les métaphores un peu pourries, mais imaginez, je pense toujours à, imaginez que vous soyez invité à un dîner mondain. Si vous amenez un gâteau, un fondant au chocolat en forme de crocodile avec des Smarties dessus, les gens vont vous regarder un peu avec une drôle de tête. Vous allez plutôt venir avec une petite glace au yuzu ou je sais pas quoi. Tandis que si vous arrivez à un goûter d'anniversaire, vous pouvez arriver avec un gâteau. Et alors, pour moi c'est ça. J'écris pour les enfants, il y a des ingrédients de pur plaisir. Des ingrédients qui sont la répétition, qui sont les aventures. Tout est outré. Et pour moi, ce sont des livres oulipiens, parce que je les pense vraiment comme ça, et je les pense aussi avec une structure, avec des références, et je ne m'interdis pas du tout de mettre des choses qui ne sont pas du tout du domaine de l'imaginaire enfantin. Par exemple, dans Radio Banane, le dernier...
Oui, j'allais y venir, oui.
J'ai mis plein de petits bouts de phrases piqués dans Beaux endormis de Victor Hugo. Il y a Joseph Kessel, il y a un petit peu de Roland Barthes. Et ça, évidemment, les enfants ne le savent pas, ne le comprennent pas tout de suite. J'espère, mon grand plaisir, ce serait que dans 20 ans, un enfant tombe sur un poème de Victor Hugo et se dise « Bon sang !»
J'ai déjà entendu cette phrase quelque part.
Ça vient de là, et qu'il sourit. Et faire sourire quelqu'un à 20 ans d'intervalle avec le même texte, ce double niveau de lecture, pour moi, c'est extrêmement précieux.
Alors justement, prenons comme exemple Radio Banane. Il faut dire donc, que ce livre raconte comment Aristote, un petit singe qui vit au fond de la jungle dans un pays lointain, monte un jour une radio avec son ami le Toucan, et comment cette radio devient bientôt, par un étonnant concours de circonstances, la radio que tout le monde écoute aux quatre coins du globe. Il faut dire qu'elle a le don de mettre en joie cette radio, que ce soit grâce aux blagues d'Aristote et de ses amis, ou grâce à la musique, à la météo qui annonce toujours du beau temps. Par exemple, cette histoire-là, comment est-ce que vous l'avez conçue avec Rudy Spiesser? D'où est venue l'idée?
À l'époque, je préparais une exposition. Je fais une installation dans une exposition sur Jean Giono au MUCEM, il y a 2 ans. Et dans le cadre de cette exposition, j'avais fait une centaine de couvertures de séries noires détournées. Donc la série noire de Duhamel, vous savez, avec des titres absurdes qui n'avaient parfois rien à voir avec le contenu. Et moi, j'ai changé les titres en mettant des titres absurdes, mais avec des références contemporaines. Il y en avait tellement à faire pour ce projet-là, j'en avais marre, j'avais plus d'idées, et j'ai dit à Rudy, « Ah là là, j'en ai marre de ces titres, dis-moi, donne-moi des idées. » Il dit, « Oh, moi, je sais pas, dis n'importe quoi, mais je sais pas, Radio Banane. » Et là, on s'est regardé, on s'est dit, « Radio Banane, mais quel titre formidable !» Et là, à partir de là, je ne sais absolument pas comment est venue l'idée, mais l'idée était là, en fait. On s'est dit, quel titre formidable. Et là, on s'est mis à se raconter l'histoire. L'histoire était là. Il n'y avait plus qu'à l'écrire. Alors, c'est un peu une genèse floue.
C'est intéressant que ça vienne du titre, parce que vous citiez ce travail sur les couvertures des séries noires, mais l'un de vos ouvrages pour adultes connus, c'est donc Sans titre, que je sens comme le chiffre 100, que je citais au début de l'émission. Donc vous avez beaucoup travaillé sur le détournement de couvertures de livres fameux. Vous détournez ou bien le titre de l'ouvrage, ou bien le nom de l'auteur, ou bien l'image d'ailleurs de la couverture. Hein, c'est un travail visuel, faut le dire. Vous êtes plasticienne, hein, vous travaillez l'image et le texte. Presque toujours, enfin pas toujours, mais souvent dans vos ouvrages. Je me souviens que il y a une belle préface dans cet ouvrage signé par Jacques Roubaud. Je crois que la phrase de Gertrude Stein, c'est le titre et le nom propre du livre. Roubaud ajoute, si le titre est le nom propre du livre, la couverture est son portrait. C'est très intéressant, ce travail sur les couvertures. C'est vrai que c'est l'objet matériel du livre, et en particulier sa couverture. Ça fait absolument partie de l'expérience de lecture qu'on peut avoir.
ça fait absolument partie de l'expérience de lecture. Et aussi, les couvertures, en fait, évoluent beaucoup avec le temps parce qu'il y a des rééditions, parce qu'il suffit qu'un livre soit adapté en film pour que l'affiche se retrouve en couverture. Et je pense qu'on a tous les lecteurs ont en tête une édition. Je me souviens très bien dans quelle édition j'ai découvert Le Seigneur des Anneaux, par exemple, la collection Rouge et Or, qui avait son parfum particulier, sa couverture particulière, le papier craquait d'une façon particulière. Et cette série de titres détournés jouait sur nos habitudes, justement. Nos habitudes de lecteurs et de regardeurs. C'est-à-dire que, de loin, ce livre m'est familier. Et en changeant le titre ou un tout petit élément de la couverture, je crée quelque chose d'inattendu. On passe à côté d'un truc familier et on se dit « Ah, mais qu'est-ce qui se passe ?» Alors ce décalage crée un sourire, mais ça crée aussi une sorte de littérature potentielle aussi. Quel serait le contenu de ce livre? Par exemple, Moby Dick, je change, ça devient Moby Dick, avec sur la couverture le stylo bille qui ne marche pas et qu'on gribouille pour le faire remarcher. Qu'est-ce que ça raconterait ce livre-là?
Merci beaucoup Clémentine Méloin. On se retrouvera tout à l'heure au petit matin pour conclure cette nuit en votre compagnie. Mais pour l'heure, place donc aux trois premières émissions qui vont l'ouvrir dans un instant. Profil perdu, François Le Lyonnais, deuxième volet de ce documentaire proposé par Christine Goémé en 93. Un livre dévoile la vie mode d'emploi avec Georges Perec, c'était en 1978. Et ensuite, entretien avec Raymond Queneau, les recherches de Lou Lipo, une série d'entretiens menés par Georges Charbonnier en 1962. Après quoi, je recevrai la chercheuse Camille Bloomfield qui nous parlera du travail de recherche qu'elle a fait sur Lou Lipo.